La Voix de l'Espérance, une émission quotidienne qui vous est proposée par AWR, la Radio Mondiale Adventiste, est présentée par Oscar Miani. Merci de votre fidélité à la Voix de l'Espérance à travers les ondes, par internet sur www.awr.org ou aussi grâce à votre téléphone. Aujourd'hui, au programme, dans quelques instants, ce sera votre rendez-vous santé. Ensuite, vous retrouverez votre chronique Reflet d'actualité. Et enfin, nous terminerons avec une nouvelle réflexion sur notre antenne.
Avec Destination Santé, Emmanuel Ducreuset.
Bonjour à tous. Vous êtes myope ou astigmate et vous souhaitez vous mettre à la natation ou simplement piquer une tête cet été dans la mer? Attention, si vous portez des lentilles, mieux vaut les retirer. Vous êtes porteur de lunettes correctives ou de lentilles de vue, vous aimeriez nager ou simplement profiter d'un bain de mer avec vos enfants. Mais les lunettes pleines de buée et de gouttes, ce n'est pas pratique. Alors comment faire? Si elles peuvent apparaître comme la solution miracle pour plonger librement dans le grand bassin, les lentilles sont en réalité déconseillées à la piscine, comme en mer ou dans un lac. Car qu'elles soient douces ou salées, l'eau contient des microbes et des bactéries qui sont absorbées par vos lentilles. L'eau s'accumule, la lentille l'absorbe et peut devenir un terrain fertile pour les micro-organismes qui pourraient être très nocifs pour les yeux. Résultat, les yeux seront plus exposés à la contamination microbienne, qu'il s'agisse de bactéries ou d'amibes. L'infection d'amibes peut être très grave, entraînant une perte visuelle importante. La meilleure option reste pour les porteurs de lunettes et de lentilles de se procurer des lunettes de natation ou des masques de plongée à verre correcteur. Et oui, contrairement aux idées reçues, cela reste accessible pour les particuliers. Certaines mutuelles les remboursent sur prescription médicale. Notez bien que si vos yeux deviennent rouges et douloureux pendant une longue période, même après avoir retiré vos lentilles, ou si vous éprouvez une sensation de corps étranger, une vision floue et une sensibilité à la lumière, consultez un ophtalmologue au plus vite.
Avec Destination Santé, Emmanuel Ducreuset.
Bonjour à tous. Avec les grandes chaleurs de l'été, vous souffrez de jambes lourdes. Pour lutter contre ce phénomène, lié à une mauvaise circulation sanguine, il existe plusieurs solutions en fonction du degré de gêne et de votre cas particulier. Si vous ressentez parfois des lourdeurs dans les jambes, en particulier lorsqu'il fait chaud, vous pouvez commencer par modifier quelques habitudes. L'activité physique, mettant en jeu le mollet, et notamment la marche, sont recommandées pour améliorer les symptômes. Cela facilite en effet le retour veineux. Vous pouvez également surélever vos jambes au repos, en particulier en plaçant une cale de 8 à 10 cm sous les pieds du lit. Évitez aussi les vêtements trop serrés et les talons trop hauts. Réduisez les expositions à la chaleur, les bains chauds, les saunas, et pensez à rafraîchir vos jambes avec des douches fraîches. L'alimentation joue également un rôle important. Consommez suffisamment de fruits et de légumes riches en antioxydants, buvez beaucoup d'eau et limitez le sel. Si ces mesures ne suffisent pas, vous pouvez porter des chaussettes, des bas-cuisses ou des collants de contention dans la journée. Ce traitement, remboursé par l'assurance maladie, vous sera prescrit par votre médecin ou un phlébologue. Cette solution concerne tout le monde, femmes et hommes. Autre option, les médicaments appelés les vénotoniques. Ils participent à améliorer le retour veineux et à réduire les symptômes dus à la stase. Les vénotoniques n'ont pas tous le même mode d'action ni la même efficacité. Demandez donc conseil à votre médecin.
Vous aussi, votre santé vous intéresse? Alors si vous souhaitez en savoir plus, demandez-nous l'ouvrage « Santé et bien-être » des éditions Vie et Santé. Nous aurons le grand plaisir de vous en adresser un exemplaire gratuitement sur simple demande de votre part à france@awr.org.
Vous êtes toujours à l'écoute de la Radio Mondiale Adventiste et c'est votre émission La Voix de l'Espérance qui vous est présentée par Oscar Miani et toute l'équipe pour vous accompagner jour après jour. Si vous souhaitez avoir notre grille des programmes ou bien si vous voulez vous adresser à nos invités, eh bien c'est très simple, il vous suffit de nous le faire savoir, soit depuis notre site internet sur www.awr.org ou alors par courrier à IEBC, La Voix de l'Espérance, boîte postale 100 77 193 d'Amary Lélis Cedex.
Reflet d'actualité.
Une approche chrétienne de l'actualité de la semaine.
Aujourd'hui, c'est le pasteur Philippe Aurouze qui propose une réflexion sur le thème « Bise ».
Deux, le plus souvent, trois dans certaines régions, voire quatre, ou simplement une en Belgique. En commençant par la gauche ou par la droite, la bise avait ses codes et ses défenseurs. La bise, comme la poignée de main, faisait depuis longtemps partie des rituels de politesse. C'était avant mars 2020. Depuis, l'autre, même proche, est passé dans le camp des suspects, des personnes à risque, des intouchables. Fini les poignées de main, fini la bise, fini les bonjours avec un contact physique chaleureux. Certains ont tenté le poing, le coude, le pied, mais sans grand succès. Cela montre la nécessité d'un geste, d'un signifié pour appuyer le mot, la parole. Les actes marquent. Les actes témoignent. L'être humain demeure un être de contact, de partage, et la peau, un organe vivant à choyer. Le toucher ne peut disparaître. Néanmoins, si l'on en croit un sondage IFOP pour Aladom, quand la bise ne sera plus la bienvenue, effectué auprès de 1048 Français du 3 au 4 mars 2021, une grande partie de la population ne compte pas se remettre à claquer la bise à la sortie de la crise sanitaire. 78% des interrogés affirment qu'ils cesseront de faire la bise aux inconnus pour se présenter et 50% d'entre eux n'y auront plus recours pour saluer leurs proches, amis ou collègues. Malgré le déconfinement et un apprendre à vivre avec le virus, selon les mots du président de la République, la distanciation physique risque de perdurer. Pour le plus grand bonheur de certains et la frustration des autres. Comment va-t-on se saluer ? Comment va-t-on exprimer la joie de se voir, de se retrouver ? À l'allemande, sans contact physique, bien loin du besoin très latin du contact. À l'américaine, c'est-à-dire avec un grand hug, même si ceux-ci produisent une hormone, l'ocytocine, dite aussi hormone du bonheur ou du plaisir qui est responsable du bien-être et de la bonne humeur, les Français sont-ils prêts à changer de culture ? L'histoire de la bise remonte à loin. Les Romains furent les premiers à instaurer la bise comme acte de salutation. Dans l'Antiquité, c'était un peu « dis-moi où je pose mes lèvres et je te dirai si nous sommes égaux ». Baiser sur la bouche entre hommes du même rang et sur la joue pour signifier la supériorité de l'un sur l'autre. Aujourd'hui, on fait la distinction entre « baiser sur la bouche » réservé aux amoureux et « bise sur la joue » pour les proches. La généralisation de la bise en France date des années 1960. Pourtant, pratiquée comme un geste banal, la bise représente aussi un lien de confiance particulier qui unit deux personnes, une intimité. D'ailleurs, lors d'une des premières rencontres entre chefs d'État, Emmanuel Macron n'a-t-il pas fait la bise, embrassé chaleureusement son homologue Angela Merkel ? Geste inhabituel à ce niveau de responsabilité, mais dans la continuité de l'un de ses prédécesseurs, Nicolas Sarkozy. Témoignage de fraternité, de proximité, de lien de confiance, ces bises témoignaient de la solidité des relations franco-allemandes. D'où leur importance. Dans le même esprit, le baiser de paix, de fraternité, est d'ailleurs recommandé par les apôtres Paul et Pierre. « Saluez-vous les uns les autres d'un baiser fraternel », écriront-ils à plusieurs reprises dans leurs lettres aux chrétiens. Suspecté d'alimenter la débauche, le baiser de paix sur la bouche est néanmoins réglementé par le Concile de Carthage en 397. Il l'interdit entre les hommes et les femmes. Mais revenons à notre bise sur la joue. Qu'adviendra-t-il de sa pratique ? Qu'en restera-t-il ? Pour les sociologues spécialistes de la question, faire la bise, c'est montrer qu'on fait partie du même groupe. C'est le petit rituel d'appartenance. Mais si vous préférez faire un check du coude à vos collègues de travail et que tout l'open space est partant, allez-y. C'est le moment de faire bouger nos codes sociaux pour les allergiques à la bise. En revanche, puissions-nous garder l'esprit de fraternité qui entoure la bise ? C'est-à-dire conserver un signe spécifique pour dire à l'autre « je t'accueille dans mon cercle, dans une proximité, dans une fraternité d'humanité. Je te souhaite la paix et je m'engage à tout mettre en place pour qu'elle soit réelle. Car, au-delà du geste, du mot, l'engagement de soi, l'implication dans les actes de vie devrait amener à des relations pacifiées. Le rituel évoluera peut-être. À nous d'en conserver l'esprit et de poursuivre une démarche relationnelle de paix et de fraternité. Je vous souhaite donc à tous un bon jour et vous envoie une bise.
C'était Reflet d'actualité, une réflexion qui vous a été proposée par le pasteur Philippe Rouze. Retrouvez cette chronique en podcast.
Hier ist Adventist World Radio, die Stimme der Hoffnung.
Questa è la Radio Mondiale Adventista.
La voce della speranza.
Yeah.
Ici, c'est toujours la Radio Mondiale Adventiste. Vous êtes à l'écoute de La Voix de l'Espérance avec Oscar Miani au micro et toute l'équipe. Bienvenue à vous qui venez de nous rejoindre. Vous nous suivez en ondes courtes sur les 6155 kHz dans la bande des 49 mètres à 4h30 en temps universel. À 8h, c'est sur les 15145 kHz dans la bande des 19 mètres et à 20h sur les 9780 kHz dans la bande des 31 mètres que vous pouvez nous écouter. Et maintenant, je vous propose de poursuivre.
Valeur ajoutée, une réflexion de Pierre Péchou sur ses qualités qui nous rendent riches pour le bien de tous.
Être solides les uns pour les autres. Cela est tellement important que la justice est en droit de condamner celui qui n'est pas assez solidaire, la fameuse non-assistance à personne en danger. Je ne vais pas m'intéresser à la législation aujourd'hui, mais à ce que peut représenter pour nous dans notre quotidien le fait d'être solides les uns pour les autres, le fait d'être solidaires. L'importance de cette valeur dans notre société s'impose de fait à chacun. Il suffit pour cela, et je l'ai fait, de taper le mot « solidaire » dans un moteur de recherche sur Internet. La petite liste de résultats qui suit n'est absolument pas exhaustive. Caution solidaire pour louer un logement. Tarif solidaire pour voyager moins cher avec la SNCF. Économie sociale et solidaire qui regroupe coopératives, mutuelles, associations, fondations. colos solidaires, des colonies de vacances à tarifs solidaires. Achats solidaires, vous achetez un produit et une partie du prix payé va à une association. Le RSA, bien sûr, revenu de solidarité active, qui assure aux personnes sans ressources un niveau minimum de revenus. Je pourrais continuer sûrement un petit moment, mais je finirai juste cette liste par un dernier exemple assez original, même s'il a un peu de mal à s'installer en France. Je veux parler du café solidaire, qui s'appelle à l'origine le café suspendu. C'est une expression italienne qui remonte à la Seconde Guerre mondiale et qui a son origine à Naples. Cela consiste à payer deux cafés dans un bar et à n'en consommer qu'un, gardant le deuxième pour un client démuni qui n'aurait pas les moyens de s'en offrir un. J'aimerais dans cette émission remercier chacun qui participe à cette solidarité au quotidien. La France est une des championnes du monde en termes d'associations. Plus d'un million d'associations existent en France, qui regroupent plus de 15 millions de bénévoles, sans compter les salariés. 60% de ces associations sont dans les domaines sportifs et culturels, mais qu'on ne s'y méprenne pas. Très souvent, une petite association de quartier ou de village, sportive ou culturelle, est un lieu important de solidarité. Alors merci. Merci pour toutes ces associations, tous ces bénévoles et vous tous qui, sans faire partie de quoi que ce soit, veillez sur un voisin, un membre de la famille en difficulté, aidez simplement quelqu'un dans la rue. Il y a pour moi quelque chose d'extraordinaire, presque de miraculeux dans la solidarité. C'est qu'un acte solidaire n'est jamais à sens unique. Je suis bien conscient de vous partager une évidence pour certains, mais il est toujours utile de le rappeler. Celui qui donne reçoit beaucoup en retour. Je suis sûr que nous pourrions partager ces belles expériences de vie où donner à l'autre nous a énormément apporté. Ce qu'il y a de beau, c'est qu'il y a mille façons d'être solidaire et que cela ne demande pas forcément d'avoir de l'argent. Il faut bien sûr partager un peu de ses richesses et nous sommes riches de tellement de choses. Et ceux qui n'ont pas un compte en banque fourni peuvent être riches de temps à donner, d'expérience ou de conseils à partager. Lorsque je me penche sur le message que la Bible me partage sur ce thème de la solidarité, je découvre que celle-ci n'est pas en fait un simple choix, mais un fondement essentiel à la vie en société, une obligation morale, une importance placée au sommet des attentes de Dieu. Dans le livre biblique Ésaïe, Dieu va interpeller ceux qui pensent être justes à ses yeux en lui offrant des sacrifices et principalement en jeûnant, faisant tout ça en négligeant le nécessiteux. Ce passage est connu de beaucoup comme le passage sur le vrai jeûne. En voici un extrait, c'est Dieu qui parle. Voici le jeûne qui me plaît. C'est partager ton pain avec celui qui a faim, loger les pauvres qui n'ont pas de maison, habiller ceux qui n'ont pas de vêtements. C'est ne pas te détourner de celui qui est ton frère. Cette émission se veut donc être un grand merci, mais peut-être aussi un encouragement pour chacun à se questionner sur son engagement solidaire.
C'était Valeur ajoutée, une réflexion de Pierre Péchaud.
Connaissez-vous la vie, la vraie ? Vous aspirez à ce que la vôtre soit meilleure ? L'IEBC, l'Institut de la Bible par correspondance, peut vous aider. Ces cours sont gratuits et à votre rythme. Retrouvez-nous vite sur www.iebc.org et vous verrez, votre vie va changer. Parce que croire, c'est la vie.
Si vous souhaitez réécouter ce programme ou bien le partager avec vos amis, retrouvez-nous sur www.awr.org. Vous pouvez aussi nous suivre par téléphone. Depuis la France, il vous suffit de composer le 01 80 14 44 77. En dehors de France, vous faites le 00 33, puis le 1 80 14 44 77. Et depuis les États-Unis, eh bien, vous composez le 1 712 432 9978. Et pour nos coordonnées postales, la Voix de l'Espérance, IEBC, boîte postale 100 77 193, Damary-Lélis, CEDEX. Votre émission est pour aujourd'hui terminée. Vous écoutiez la Radio Mondiale Adventiste et c'était La Voix de l'Espérance. Vous étiez en compagnie d'Oscar Miani. Nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure pour votre nouveau programme. Au revoir.